Delroy, nous allons faire un film fantastique.
Depuis Garbo, les actrices ont gardé ce mystère, ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.
Zone B au service du diable de Jean Brismé. Alors inutile de se mentir, hein, le scénario très linéaire d'Au service du diable s'avère sous-exploité par le cinéaste Jean Brismé, dont c'est l'unique long métrage. Alors loin d'être un débutant, hein, Jean Brismé, alors âgé de 45 ans, n'avait aucune acquaintance avec le genre fantastique, acceptant l'opportunité de s'engouffrer dans des terres inconnues comme un exercice de style récréatif. Ce professeur de mathématiques et de physique, auteur de quelques courts-métrages et documentaires assez pointus, notamment un docu autour de Jean Rouch, le cinéaste, s'est retrouvé parachuté un peu par hasard sur le tournage de cette coproduction italo-belge à la distribution hétéroclite et étonnante dans tous les secteurs. Au service du diable, exploité en salle sous le nom de La nuit des pétrifiés et parfois La plus longue nuit du diable, est issu de l'imagination de Patrice Rondard, romancier spécialisé dans l'épouvante, plus connu des amateurs de bizarrerie sous le nom de Patrice Rome, réalisateur déviant de l'Archisex et de la Nazisploitation, produit par Eurociné Elsa Fräulein SS. Alors le récit débute en 1944 à Berlin en noir et blanc. Le baron von Ronnenberg tue à la naissance son enfant en espérant mettre un terme à une malédiction qui ronge sa famille, à savoir que chaque fille devienne une succube au service du malin. Cette introduction très réussie nous immerge dans un climat oppressant et presque choquant. Hélas, la suite ne tiendra pas toutes les promesses. 25 ans plus tard, cet individu voyage dans un van touristique près de la forêt noire. Perdu, il frappe à la porte du château majestueux du baron pour demander l'asile. Alors d'emblée, entre le prologue et la suite, on ne saisit pas très bien le rapport, si ce n'est mise en garde du danger potentiel qu'induit cette intrusion dans ce lieu maudit. Mais l'arrivée de Ilse Müller, sculptureuse plante vêtue comme Vampirella, tel un oiseau de mauvais augure, embarque le récit du côté de l'épouvante pure. Rapidement, elle dévoile sa vraie nature, celle d'un succube, entité démoniaque revêtant la forme d'une femme, présent pour punir les hôtes du baron. Alors la raison est pragmatique, chaque personnage incarne un péché capital, la colère, l'avarice, la paresse, la luxure, l'orgueil, l'envie, la gourmandise, comme dans le célèbre Seven, hein, du coup, les amenant à périr en enfer dans d'atroces souffrances, chacun subissant une mort en rapport avec leurs perversions respectives. Alors seul le prêtre, hein, muré dans son orgueil, résiste à la tentation du sulfureux succube envoyé sur les lieux comme une sorte de madame loyale au service du diable, pour reprendre le titre français très bien choisi. Alors ce diable porte les traits d'un comédien fascinant, Daniel Émile Faure, que certains connaissent pour son apparition dans La Cité des Enfants Perdus, qui n'a qu'à s'immiscer dans le cadre pour être crédible. Son visage émacié à la Nosferatu suffit pour nous plonger dans une dimension inquiétante. Sa voix traînante et précieuse vous transporte au sein d'un univers occulte, finissant par nous convaincre de l'existence de Satan, le temps bien sûr d'une expérience cinématographique. En 5 minutes de présence seulement, le comédien vampirise l'atmosphère morbide de son imposante aura. Il demeure l'attraction principale de cet honnête film d'épouvante qui ne va jamais assez loin pour être totalement satisfaisant. Les meurtres déploient néanmoins quelques variantes délectables, telles la tête coupée ou l'empalement dans un sarcophage sans verser dans l'hémoglobine. Le sentiment que le réalisateur se retient, non par censure mais par volonté, se ressent tout le long du métrage. Brismé injecte en l'occurrence un humour très distancié, flirtant parfois avec le pastiche, comme pour signaler que tout cela n'est pas bien sérieux. Une attitude un peu dommageable, d'autant que la forme s'avère très soignée. Le film bénéficie d'une très belle photographie, mettant en valeur l'intérieur gothique du château, d'une envoûtante partition signée par le compositeur italien Alessandro Alessandroni, de maquillage convaincant, la transformation de Ilse image par image ne pâtit pas du temps qui passe, et surtout d'un casting alléchant et sexy. Alors le film réunit une belle brochette de comédiens, parmi lesquels on peut citer en premier lieu la très attirante Erika Blanc, parfaite en succube, et l'excellent Jean Servais, dont le jeu détaché, presque las, convient à merveille à son personnage de baron solitaire menant des expériences obscures. Alors coproduction avec l'Italie oblige, hein, au service du diable, sauf néanmoins quelques incursions érotiques tournées dans le dos du réalisateur par des producteurs sans scrupules, et notamment une très belle séquence saphique entre deux délicieuses créatures, Ivana Novak et Charley Corrigan pour les nommer, petite plus-value pour une œuvre à la sagesse graphique parfois frustrante, mais qui va jusqu'au bout de son sujet, clôturant le film par un épilogue pessimiste non dénué d'ironie. Quand le malin gagne la bataille contre les forces du bien, un plaisir masochiste vous saisit, surtout quand Lucifer, ou qui vous voulez, porte les traits, au risque de me répéter, de Daniel Emile Fork, malicieux et hypnotique. Alors le combo DVD Blu-ray est sorti chez Artus avec un magnifique livret à l'intérieur.
Gilderoy, nous allons faire un film fantastique.
Garbo, les actrices ont gardé ce mystère, ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.